Chapitre 18. Le même jour, Maurice Hazel s'était cassé le dos. Maurice n'avait jamais eu l'intention de se casser le dos. Il avait seulement voulu reclouer la gouttière au coin ouest de sa maison. L'idée de se casser le dos était à 100 lieues de son esprit. Il avait eu assez d'ennuis dans la vie sans ça, merci. Sa première femme était morte à 25 ans, et leurs deux filles étaient mortes, elles aussi. Ses frères étaient morts, tués dans un grave accident de voiture près de Disneyland en 1971. Maurice, lui-même, allait sur ses 60 ans, et son arthrite s'aggravait rapidement. Il avait aussi des verrues aux deux mains, des verrues qui repoussaient aussi vite que les médecins les brûlaient. De plus, il était sujet à des migraines, et enfin, depuis 2 ans, son pote-sœur de voisin, Rogan, s'était mis à l'appeler Maurice le chat. Devant Lydia, sa seconde femme, Maurice s'était demandé à voix haute comment Rogan réagirait si lui-même le surnommait Rogan l'hémorroïde.
« Laisse tomber !» lui disait Lydia dans ces cas-là. « Tu ne supportes pas la plaisanterie, tu ne l'as jamais supportée. Je me demande comment j'ai pu épouser un homme qui n'a aucun sens de l'humour. On va à Las Vegas ?»
poursuivait Lydia en se tournant vers la cuisine déserte comme si une horde de spectateurs invisibles buvait ses paroles.
« On va voir Buddy Hackett et Maurice ne rit pas une seule fois. »
En plus de son arthrite, de ses verrues et de ses migraines, Maurice avait Lydia, laquelle, Dieu la bénisse, se transformait peu à peu en mégère depuis environ 5 ans. Depuis son hystérectomie. Il avait donc largement sa part de problèmes et de chagrins, sans devoir ajouter un dos brisé.
« Maurice !» cria Lydia,
apparaissant à la porte de derrière en s'essuyant ses mains pleines de mousse à un torchon.
« Maurice, descends immédiatement de cette échelle !»«
Quoi ?»
Il se tordit le cou pour écouter, arrivé presque en haut de son échelle double. Une étiquette jaune vif était collée sur la marche où il était. « Danger !» très instable au-delà de cette marche. Maurice avait son tablier de charpentier à large poche, l'une pleine de clous et l'autre d'agrafes en acier. Le sol était légèrement inégal et l'échelle oscillait un peu quand il bougeait. Sa nuque lui faisait mal, désagréable prélude à l'une de ses migraines. Il n'était pas de la meilleure humeur qui soit.
« Quoi ?
Descends de là, je t'ai dit, avant de te casser le dos.
J'ai presque fini.
Tu te balances sur cette échelle comme sur un bateau, Maurice. Descends.
Je descendrai quand j'aurai fini,
dit-il en colère.
Laisse-moi tranquille.
Tu vas te casser le dos,
répéta-t-elle sur un ton larmoyant avant de rentrer dans la maison. 10 minutes plus tard, alors qu'il enfonçait le dernier clou dans la gouttière, renversé en arrière au point de se déséquilibrer, il entendit un miaulement félin suivi de féroces aboiements.
Au nom du ciel, qu'est-ce que...
Il tourna la tête et l'échelle se balança dangereusement. Au même moment, le chat, qui s'appelait Loverboy, pas Maurice, tourna l'angle du garage à toute allure, le poil hérissé, ses yeux verts étincelants de rage. Le petit chien de berger déboula à sa poursuite, langue pendante, traînant sa laisse derrière lui. Loverboy, apparemment guère superstitieux, fonça sous l'échelle, suivi par le chiot.
« fais gaffe, pauvre abruti !»
cria Maurice. L'échelle bougea. Le chiot la heurta du flanc. Elle se renversa et Maurice avec, en hurlant de terreur. Les clous et les agrafes s'envolèrent de ses poches. Il tomba à moitié sur le ciment de l'allée et une gigantesque souffrance incendia son dos. Il sentit, plutôt qu'il n'entendit, sa colonne vertébrale se briser. Ensuite, le monde vira au gris pendant quelque temps. Quand la vue lui revint, il était toujours allongé, à moitié sur le ciment de l'allée, à moitié sur une litière de clous et d'agrafes. Lydia, en pleurs, était agenouillée près de lui. Le voisin Rogan était là, lui aussi, le visage blanc comme un linge.
« Je te l'avais dit !»
balbutia Lydia.
« Je t'avais dit de descendre de cette échelle. Regarde maintenant, regarde-moi ça !»
Maurice découvrit qu'il n'avait absolument aucune envie de regarder. Un anneau de douleur poignante, suffocante, enserrait le milieu de son corps. Mais il y avait pire encore. En dessous de cet anneau, il ne sentait rien. Rien du tout.
Garde tes larmes pour une autre fois,
dit-il d'une voix rauque.
Pour l'instant, appelle un médecin.
J'y vais,
dit Rogan, qui rentra chez lui en courant.
Lydia.
Maurice s'humecta les lèvres.
Quoi? Quoi, Maurice?
Elle se pencha sur lui et une larme s'écrasa sur sa joue. C'était touchant, supposa-t-il, mais cela l'avait fait tressaillir et la douleur était montée d'un cran.
Lydia, j'ai aussi une de ces migraines.
Oh, pauvre chérie, pauvre Maurice, mais je t'avais dit...
J'ai une migraine parce que ce potseur de chien, celui de Rogan, a aboyé toute la nuit et m'a empêché de dormir. Aujourd'hui, ce chien poursuit le chat et renverse mon échelle, et je crois que j'ai le dos cassé.
Lydia poussa un cri perçant qui fit vibrer le crâne de Maurice.
Lydia,
dit-il en s'humectant les lèvres une fois de plus.
Quoi, chérie?
J'avais des soupçons depuis longtemps. Maintenant, j'en suis sûr.
Mon pauvre Maurice, de quoi?
Dieu n'existe pas.
Maurice s'évanouit. On l'emporta à Santo Donato, et son médecin lui dit, au moment même où, d'habitude, il s'attablait devant un des misérables dîners préparés par Lydia, qu'il ne marcherait plus jamais. Maurice avait déjà le corps entièrement plâtré. On lui avait fait des prises de sang et d'urine. Le docteur Kellerman avait examiné ses yeux et frappé sur ses genoux avec un petit marteau caoutchouté. Mais pas le moindre tressaillement réflexe n'avait suivi. Et à chaque fois, il retrouvait Lydia versant des flots de larmes, consommant mouchoir sur mouchoir. Lydia, une femme qui aurait dû épouser Job, ne se déplaçait jamais sans une provision de petits mouchoirs en dentelle, juste au cas où se présenterait une raison de pleurer un bon coup. Elle avait appelé sa mère, qui serait bientôt là.
« C'est gentil, Lydia. »
Et pourtant, si Maurice détestait vraiment une personne au monde, c'était la mère de Lydia. Elle avait prévenu le rabbin, qui serait bientôt là, lui aussi.
« C'est gentil, Lydia. »
Et pourtant, il n'avait pas mis les pieds à la synagogue depuis 5 ans, et il ne se souvenait pas du nom de ce rabbin. Elle avait appelé son patron, et bien qu'il ne puisse pas venir dans l'immédiat, il l'assurait de sa sympathie et de ses condoléances.
« C'est gentil, Lydia. »
Et pourtant, s'il y avait quelqu'un à mettre dans le même tonneau que la mère de Lydia, c'était ce putz mâcheur de cigares, Frank Haskell. Finalement, ils lui donnèrent un Valium et firent sortir Lydia. Peu après, Maurice se sentit partir à la dérive. Plus d'ennuis, plus de migraines, plus rien. S'il continuait à lui donner ses petites pilules bleues, se dit-il encore, il remonterait sur l'échelle pour se recasser le dos. Quand il se réveilla, ou reprit conscience, c'était plutôt ça, le jour se levait et l'hôpital était aussi silencieux que possible. Maurice se sentait très calme, presque serein. Il n'avait pas mal. L'impression que son corps, tout emmailloté, ne pesait plus rien. On avait entouré son lit avec un appareil, une sorte de cage à écureuil faite de tubes chromés, de câbles d'acier et de poulies. Ses jambes étaient maintenues en l'air par des câbles sortant de ce gadget. Par en dessous, quelque chose devait lui tenir le dos arqué, mais c'était difficile à dire. Il ne pouvait bouger que les yeux.
« D'autres ont vécu pire, »
se dit-il.
« Partout dans le monde, d'autres ont vécu pire. » En Israël, les Palestiniens tuent des bus entiers pleins de paysans politiquement coupables d'aller au cinéma en ville. Les Israéliens corrigent cette injustice en lâchant des bombes sur les Palestiniens et en tuant des enfants en même temps que les terroristes qui pourraient se trouver là. D'autres ont vécu pire que moi. Ce qui ne veut pas dire que c'est une bonne chose, ne croyez pas ça. Mais d'autres ont vécu pire.
Il leva un bras avec un certain effort, provoquant une douleur quelque part dans son corps, mais très légère, et serra faiblement un poing devant ses yeux. Voilà, tout allait bien pour ses mains. Tout allait bien également pour ses bras. Ainsi donc, il ne sentait plus rien à partir de la taille. Et puis quoi? Dans le monde entier, il y avait des gens paralysés à partir du cou. Il y avait des gens qui avaient la lèpre. Il y avait des gens qui mouraient de la syphilis. En ce moment même, quelque part dans le monde, il y avait peut-être des gens en train de monter dans un avion qui allait s'écraser. Non, ce n'était pas une bonne chose, mais partout, il y avait pire. Et il y avait eu, jadis, des choses bien pires en ce monde. Il leva le bras gauche. Son bras sembla flotter, désincarné, devant ses yeux. Un bras de vieillard, amaigri, dont les muscles se détérioraient. On lui avait mis une chemise d'hôpital, mais elle avait des manches courtes, et il pouvait lire le numéro tatoué sur son avant-bras d'une encre bleu pâle. P4999-65214. Des choses pires, oui. Pire que de tomber d'une échelle en banlieue, de se briser le dos et d'être emporté dans un hôpital de grande ville propre et stérile où on vous donne un Valium qui fait à coup sûr évaporer tous vos ennuis. Il y avait eu les douches, c'était pire. Sa première femme, Ruth, était morte dans une de leurs saloperies de douches. Il y avait eu les tranchées transformées en tombes. Quand il fermait les yeux, il pouvait revoir les hommes alignés devant la gueule ouverte des tranchées, réentendre les volées de coups de fusil, se souvenir de la façon dont ils s'effondraient dans la terre comme des pantins mal ficelés. Il y avait eu les fours crématoires. C'était pire, ça aussi. Les fours crématoires qui remplissaient perpétuellement l'air de l'odeur douceâtre des juifs brûlant comme des torches que nul ne voyait. Les visages horrifiés des vieux amis, des parents. Des visages qui fondaient comme des chandelles. Des visages qui semblaient fondre sous vos yeux. De plus en plus minces, transparents. Et un jour, ils avaient disparu. Où ? Où va la flamme d'une torche quand un vent glacé l'a éteinte ? Au paradis ? En enfer ? Des lumières dans la nuit, des chandelles dans le vent. Quand finalement Job s'écroula et se mit à douter, Dieu lui demanda « Où étais-tu quand j'ai créé le monde ?» Si Maurice Heisel avait été Job, il aurait répondu
« Où étais-tu quand ma Rachel est morte ? Toi, le pot de sœur, toi ? Tu regardais les Yankees contre les Senators ? Si tu ne sais pas mieux tenir ton affaire, hors de ma vue. »
Oui, il y avait pire que se casser le dos. Il n'avait aucun doute là-dessus. Mais quelle sorte de Dieu lui aurait laissé se casser le dos pour rester paralysé à vie après avoir vu mourir sa femme, ses filles et ses amis ? Aucun Dieu, voilà tout. Une larme coula du coin de son œil et descendit lentement jusqu'à son oreille. Une sonnerie étouffée résonna à l'extérieur de sa chambre. Une infirmière passa en faisant crisser ses semelles de crêpe. Sa porte était entrouverte, et il pouvait lire en face, sur le mur du couloir, les lettres NSIFS, laissant deviner l'inscription complète « Soins intensifs ». Dans la chambre, il y eut un mouvement, un froissement de drap. Maurice, très prudemment, tourna la tête vers la droite, à l'opposé de la porte. Il vit d'abord une table de nuit avec une carafe d'eau. Deux boutons d'appel sur la table. Plus loin, un autre lit, avec dans ce lit un homme qui paraissait encore plus vieux et plus malade que lui, se dit Maurice. Il n'était pas branché à une cage pour faire courir les gerbilles, comme lui, mais il avait un pied à perfusion à la tête de son lit et une sorte de console de surveillance à côté. L'homme avait la peau jaune, le visage creusé, de profondes rides autour des yeux et de la bouche. Des cheveux blancs jaunes, secs et sans vie. Ses paupières minces luisaient, comme battues. Et sur son grand nez, Maurice vit les capillaires éclatés des buveurs impénitents. Maurice détourna les yeux, puis regarda encore. À mesure que l'aube s'éclaircissait et que l'hôpital se réveillait, il eut la très étrange impression de reconnaître son voisin de chambre. Était-ce possible ? L'homme avait l'air d'avoir entre 75 ans et 80 ans. Et Maurice ne pensait connaître personne d'aussi âgé, sauf la mère de Lydia. Une horreur dont il pensait parfois qu'elle était plus vieille que le sphinx. D'ailleurs, elle lui ressemblait beaucoup. Peut-être ce type était-il quelqu'un qu'il avait connu jadis. Peut-être même avant de venir en Amérique. Peut-être. Peut-être pas. Et pourquoi cela prenait-il tout à coup de l'importance? Et pourquoi tous ces souvenirs du camp, de Patine, étaient-ils revenus en foule cette nuit-là, alors qu'il s'efforçait de les garder enfouis et y réussissait le plus souvent? Il fut soudain couvert de chair de poule, comme s'il était entré dans une sorte de maison hantée où remuaient d'anciens cadavres, où d'anciens fantômes se mettaient à marcher. Était-ce possible? Même ici, dans cet hôpital immaculé, 30 ans après la fin de cette période sinistre? Il détourna les yeux du vieillard et sentit bientôt revenir le sommeil.
« Ton esprit te joue un tour en te rendant familier ce vieil homme. Ce n'est que ton esprit qui t'amuse du mieux qu'il peut,
qui t'amuse comme il essayait de le faire à... » Mais il ne voulait pas penser à ça. Il ne se permettrait plus d'y penser. S'enfonçant dans le sommeil, il se souvint de s'être vanté devant Ruth. Jamais devant Lydia. Inutile de se vanter devant elle, au contraire de Ruth, qui souriait toujours tendrement en le voyant se gonfler et se pavaner.
« Je n'oublie jamais un visage. »
Voilà l'occasion de le prouver. S'il avait vraiment connu son voisin de lit à une époque ou une autre, peut-être pourrait-il se souvenir de quand et d'où. Tout proche du sommeil, hésitant avant d'y sombrer, Maurice pensa encore.
« Je l'ai peut-être connu au camp. »
Quelle ironie ce serait, vraiment. Le rire de Dieu, comme on dit. « Quel Dieu ?» se demanda encore une fois Maurice Heisel. Et il s'endormit.